5 septembre 2015, je suis allée à Sète après avoir fait une annonce aux habitants de la ville, aux habitants de la région, comme je le fais depuis 1991 maintenant. C'est-à-dire, j'ai fait un appel pour réaliser une œuvre qui serait comme qui est un échange. Alors d'habitude, je fais des œuvres vidéo, et cette fois-ci, puisque c'était dans le cadre d'une exposition importante où il y avait beaucoup d'œuvres vidéo, j'ai décidé de faire une œuvre écrite sur le mur. Dans ce flyer, je proposais aux gens de venir offrir des mots à récit et quelque chose qui les engage personnellement, mais surtout quelque chose dont ils savent, dont quelque chose qui serait après écrit sur le mur du musée ou sur le mur du centre d'art. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de raconter une histoire à un ami. J'ai eu 61 réponses, 61 personnes sont venues se présenter le 25 septembre. Et ce qui est assez particulier, c'est que d'habitude, je reçois les gens aux quatre coins du monde et je travaille avec eux pendant des heures et des heures. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai proposé qu'ils ne puissent me voir que 15 minutes. C'est très peu, 15 minutes. Et je dois dire que c'est la première fois que ça m'est arrivé de ma vie. Les 61 personnes étaient pile à l'heure. Et je suis restée exactement 15 minutes avec eux. J'ai pris leur récit. Et puis comme ça m'était déjà arrivé pour les histoires de ma vie que j'ai tournées il y a une dizaine d'années, j'ai pris leurs mots, je les ai compressés. C'est-à-dire j'ai enlevé ce que j'appelle tous les mots inutiles. C'est-à-dire tous les mots qu'on rajoute quand on est gêné extrêmement... parce qu'on veut remplir l'espace. Et j'ai essayé de garder que le strict minimum de chaque récit. Toutes mes œuvres sont des échanges. Je n'ai jamais rien tourné sans donner en échange une œuvre. Pour mes vidéos, quand je tourne avec des personnes, je leur donne ce que j'ai tourné avec eux et je garde une chose que je monte dans une histoire plus grande. En l'occurrence, pour ce travail, j'écoutais la personne qui me disait ces mots, qui me racontait des choses. Et puis à la fin, j'inventais moi-même une phrase que j'écrivais sur ce support que je vous montre, support en carton. J'écris une phrase à la craie. Cette phrase, je l'offre. Et ce n'est pas fixé, la craie. C'est extrêmement fragile. J'aime beaucoup cette idée, c'est-à-dire qu'ils l'emportent et que, en fait, ils en deviennent responsables. C'est-à-dire, et comme je n'aime pas les choses plastifiées et que je n'ai pas envie qu'ils l'encadrent, eh bien, il faut le mettre chez soi et puis vivre avec, parce que peut-être un jour, quelqu'un passera le doigt. La première que j'ai faite comme ça avec la craie date d'il y a 25 ans. Et elle est restée 24 ans chez moi. Il y avait marqué le mot « oui ». Et un jour, quelqu'un est passé, je ne sais pas qui. Et il a fait un trait dedans. Je ne l'ai pas senti comme une perte. Je l'ai senti comme un moment de accepter. Alors aujourd'hui, je vais vous dire un certain nombre de ces récits et je m'arrêterai au milieu et à la fin. Et si l'un de vous veut raconter une histoire et me l'échanger, je lui échangerai contre un dessin. Assia, je vous offre ma liberté de femme très chèrement gagnée. À Alger, on tuait tout le monde, on ne faisait plus la différence. On était devenus des bêtes, on s'entretuait. C'était entre 1990 et 1994, la période du terrorisme. Le Front islamique du salut avait perdu les élections. Avec mon mari, on vivait caché. Quand je sortais faire les courses, j'enfilais une robe longue de peur de croiser le fils. Du jour au lendemain, on a dû fuir. C'était le 26 mars 1994. Je suis devenue une réfugiée à Paris. Ici, la ville de Sète me rappelle mon pays. Mais le déracinement est toujours là, le poids de la douleur est toujours là. En 20 ans, ici, j'ai pu développer une liberté de femme et une philosophie de vie. La religion a toujours été un poids pour moi. Elle m'a énormément freinée, car dans ma religion, tout est péché. La religion devrait être une philosophie de vie et non pas une arme. Ici, je me sens libre. À Alger, j'étais une biologiste marine. Ici, je suis assistante pédagogique. Et je m'occupe d'enfants présentant des déficiences. Je suis leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leurs bouches. Les morts de Charlie ont remis à vif toutes mes souffrances. Et depuis, je vis mal. J'ai peur que la même chose arrive ici, en France. D'ailleurs, je le vois déjà arriver. Frédéric? Je vous offre ce radis. Je peins des radis depuis 30 ans. J'ai choisi les radis car je ne voulais plus raconter d'histoire. Je voulais peindre une chose inerte, mais c'est un leurre car les radis racontent, malgré tout, une histoire. Je ne voulais plus de quelque chose qui m'embarque dans la souffrance. Je voulais quelque chose de plus lumineux. Peindre la même chose, c'est rassurant. Mon mal devenait délicieux, comme une ivresse. Une ivresse mélancolique. Jeanne, je vous offre ceci. Je vais bien. Jeanne va bien. Cela était surprenant. On m'a annoncé très durement que j'avais le cancer un soir à 18h. J'étais seule. Qu'allais-je devenir? Alors je suis allée au bord de l'eau, et dans cette tombée du jour, dans cette lumière du soir, quelque chose m'a apaisée. Le lendemain, j'ai acheté de très belles boucles d'oreilles, et je me suis dit que ce cancer ne me concernait plus. Je me sentais si bien. Ma vie avait été concassée, fracassée. Ma fille courage, disait ma mère. Elle rajoutait, on se tient chez nous, on sait se tenir. J'ai perdu mes cheveux, mes sourcils, tout. À chaque fois, je me disais, je vais bien, je ne suis plus la fille courage, je suis la fille légère, accrochée aux nuages. Je n'étais plus la fille plombée, lourde, je suis devenue si légère, je suis devenue papillon. Richard, je suis venu vous offrir ma présence. Je n'ai plus de voiture et plus de vélo, car on me l'a volé. J'habite à 110 km dans les Cévennes. Je me suis levée à 5h du matin. J'ai d'abord marché, puis j'ai pris le car de 6h35 pour Montpellier. Il faisait nuit. Il y avait beaucoup de gens, car cela ne coûte qu'un euro pour faire 75 kilomètres. Je suis arrivée à Occitanie, à Montpellier, et j'ai pris le tramway jusqu'à la gare. J'avais un billet spécial pour le train régional de Montpellier de 8h47 pour la somme de 2 euros aller-retour. Je suis arrivée à 7 à 9h03. Puis je suis venue à pied de la gare et je vous ai attendu jusqu'à 12h15. Pour vous voir pendant 15 minutes. En attendant, j'ai regardé la mer. Je repartirai à 16h10, puis je marcherai une heure pour reprendre le car. J'arriverai dans les Cévennes vers 20 h. Je vous offre mon histoire qui est celle d'une perte. Ici, à Sète, il y a une femme dont je suis follement amoureux et j'attends depuis des années qu'elle m'appelle. Elle s'appelle Marianne. Juste pour aujourd'hui, vous êtes Marianne. Géraldine, je vous offre mon histoire. En janvier 2014, j'ai appris que j'allais enfanter de deux jumelles. Je suis devenue mère au foyer. Quand j'ai su que j'allais avoir des jumelles, j'ai pleuré pendant une semaine. Car je me demandais comment faire pour avoir deux enfants, deux poussettes, deux amours. C'était trop. On me disait, ne divise pas, multiplie. Pour l'une, j'ai un amour charnel et pour l'autre, un amour mental. À elles deux, elles symbolisent une perfection. Deux parties de moi. Je les porte dans mes bras, chacune d'un côté. Je suis gauchère et plus forte du bras gauche, alors parfois j'ai peur de lâcher l'enfant du bras droit. Elles se ressemblent, mais pas comme dans un miroir. Elles me mangent. Je dois réapprendre à me regarder. Je me sens perdue. Je voudrais être parfaite. Sandrine, j'offre un aller à l'essentiel. Que tout ce qui est lourd devienne léger, que tout corps devienne danseur, tout esprit oiseau. Nietzsche. J'étais trop lourde et mes zones de lourdeur étaient infinies. Je voulais lâcher prise sentimentalement, géographiquement, temporellement. J'ai chez moi 99 objets. L'autre jour, j'ai ramené un marque-page. Mais finalement, je n'en ai pas besoin, alors je vais l'offrir. Je voudrais survivre au progrès, inventer une troisième voie, une voie collective, une réduction consciente pour chacun de l'essentiel. Tout le reste serait à offrir, circulerait, créerait de la fluidité. En ce moment, je n'ai plus de rentrée d'argent. Alors un homme m'offre à manger. En échange, je vais lire des livres à son père grabataire. Il n'arrive plus à voir ce père car cette déchéance lui fait peur. Je suis devenue une passeuse entre le fils et la mort. Je vais faire la lecture à ce vieil homme. J'ai choisi de lui lire du Fleming, des histoires de James Bond, celui qui n'a pas peur d'aller au combat et qui n'a pas peur de se faire tuer. C'est cela que je vais offrir à cet homme, l'ombre de ma virilité à l'ombre de sa virilité manquante. Anne. Anne, je vous offre la poupée de ma mère, celle qui dit « J'ai été humiliée et abandonnée ». Ma mère disait toujours « Il faut garder une poupée noire pour ses petites filles ». Ma mère est blanche. Sa mère ne l'a jamais touchée. À 35 ans, ma mère est partie travailler en Afrique. Et un jour, une femme noire l'a prise dans ses bras. Ma mère n'avait jamais été prise dans les bras par aucune femme. Elle ne m'a jamais pris dans ses bras. Elle a maintenant 88 ans. Je vous offre son manque et les mots qui me manquent. Ma mère retourne régulièrement au Burundi pour se faire prendre dans les bras. Génie. Je vous offre ma vie. On dit que les murs ont des oreilles et les briques parlent. J'ai 17 ans et je me sens séparée. Je m'en sens séparée depuis très longtemps. Je ne peux en parler à personne. Je pouvais parler à ma grand-mère, mais elle est morte. La mort est indifférente. La mort oblige à se taire, et moins on parle, moins on arrive à parler. Tomber amoureuse ne suffira pas à combler ce silence. La mort m'a donné un sentiment de solitude totale, extrême. Une carapace pour ne plus jamais vivre cela. Je m'interdis de recréer des liens pour ne pas revivre cette douleur. La lumière, je ne la vois pas. Je suis espagnole et je vous offre la plage de Calella. Le soleil qui se couche, je suis face à la mer. La mer est bleu foncé, basse. Il n'y a pas de vent. Je suis pieds nus, je n'ai plus envie de me réveiller, car je n'ai plus envie de retourner en France. Frédéric, je suis venue vous offrir la beauté de la vie. Je suis arrivée à Sète il y a un mois. Ici, les prénoms, ici, les pêcheurs s'appellent par leurs prénoms. On est adopté tout de suite. J'offre à Sète, Fred de Sète. Je me retrouve aujourd'hui citoyen de cette ville et je ne me sens pas comme un anonyme. Je viens de Strasbourg. Je viens de croiser un type que l'on nomme ici Top Chouchou. Il m'a demandé « Comment vas-tu, camarade ?» Qui parle encore comme cela? À 50 ans, je rêve du sourire de la boulangère et plus de coucher avec la boulangère. Le médecin m'a annoncé que j'avais la maladie de Parkinson. Je suis venue ici pour mourir. J'ai eu envie de prendre du temps pour moi ici à Sète. Et puis tout à coup, j'ai rencontré ici la femme de ma vie. Je trouve que c'est un beau destin. Je suis venue vous offrir la beauté de ma vie, car je n'ai plus de temps à perdre. Thérèse, je vous offre ceci. J'annonce que le maire de Sète va offrir 50 arbres car je manque d'oxygène malgré la mer. Il plantera ses arbres sur le terrain de l'incinérateur Quai des Moulins, qui lui sera déplacé loin des habitations. Il offrira 10 chênes verts, 10 hêtres, 5 saules pleureurs, 5 châtaigniers, 10 bouleaux et 10 peupliers. J'offre à mes concitoyens la danse des feuilles qui tombent, leur odeur et la volupté de leur vert au printemps. J'espère que ce cadeau comblera un manque irrémédiable de sensualité à ma ville de Sète. Je profite de ce mur dans ce musée pour me faire entendre, puisque vous ne m'écoutez pas, monsieur le maire de Sète. Martine, je vous offre mon histoire d'amour. On regardait dans la même direction. Il m'a dit qu'il voulait vieillir avec moi et je lui ai dit que je voulais vieillir avec lui. On a fait l'enfant avec tellement de désir, de joie et d'envie. C'était du pur bonheur. J'avais rencontré un homme, un ami, un père, tout ce que je désirais. 3 ans plus tard, à la naissance de Lola, on a découvert son cancer. Pendant ces 2 années, notre relation a été comme un concentré d'amour. On venait à Sète depuis Paris voir la mer entre 2 chimios, voir la lumière. Puis nous avons finalement déménagé ici. Venir ici, c'était devenu notre but. C'était comme s'il était enfin arrivé au port. Mais arrivé là, quelque chose a lâché en lui. Il est mort 1 mois plus tard. Je l'aime toujours. Lola est l'enfant de l'amour. Elle a 20 ans aujourd'hui. Ma vie a duré 6 ans. Ma vie a été trop courte. Je laisse sa trace ici sur ce mur pour Lola, pour moi. Même si c'est une trace éphémère. Quand il est parti, j'étais en rage. S'il revenait demain, je retomberais aussitôt amoureuse de lui. Je ne suis pas guérie. Maryse, je viens offrir ma revendication. J'étais partie écouter un concert de blues dans un bar. Je m'installe dans un fauteuil et le propriétaire vient me dire au creux de l'oreille que je suis dans une situation illicite car je suis assise dans un espace VIP. Je n'étais pas au bon endroit. À Perpignan, quelques jours plus tard, je suis assise dans un restaurant et on me dit exactement la même chose, que cette place est réservée à une personne importante. Je pense être quelqu'un d'important. Je n'ai pas le bon badge. VIP, VIP égale vraie illusion du pouvoir, voler, ignorer, parasiter, véritable idée prétentieuse, violente injure publique. Very indigestible privilege, very insulting position, VIP, vipère. Mon cadeau vous donne le droit d'effacer radicalement tout privilège de position, de classe et de genre. Pour l'actionner, il vous suffit de prendre votre place. Sophie. Je vous offre cette sensation que j'ai de la nature. Quand je suis dans la nature, j'ai un état de pure jouissance. Un jour, nous étions très pressés de rentrer avec les enfants et tout à coup, je vois ce parc et je leur montre la forme parfaite de la cime des arbres que je dessine avec ma main. J'hésite car nous devons entrer. Mais finalement, je n'y résiste pas, j'enlève mes chaussures et je me mets à courir nu-pieds comme une folle dans l'herbe et à danser avec les enfants autour de moi. L'herbe est onctueuse, fraîche, d'un vert si intense. On court, on danse, on s'arrête le dos contre un arbre et on lève les yeux et là, il y a ces milliers de petites feuilles, un toit de feuilles qui ondulent dans le vent. Tout à coup, j'ai une envie inouïe, inouïe de tout croquer, de manger. Si j'osais, je me mettrais toute nue et je me mettrais à courir dans le vent, dans l'air, contre la rugosité du tronc. J'ai ce type de désir depuis que j'ai été enceinte. J'ai une envie irrépressible de lécher l'herbe, de m'y rouler. Mon cadeau, c'est vous inviter à enlever vos chaussures et à marcher dans l'herbe dès que vous le pourrez. Sentir l'air vous monter entre les jambes jusqu'à provoquer un rire. Vous serez un peu perdue, stupéfaite, comme après une étreinte amoureuse inattendue. Charles Elie. J'offre un coquillage. Il est rond et blanc. À l'intérieur, il est tout doux. À l'extérieur, il est un peu rayé, avec des montagnes qui sont pas du tout douces. Il est marron, avec un peu de blanc. Dans ma main, il est rond comme une pomme. Il sent la mer. Mon visage ressemble à un coquillage, et des fois, je sens la mer. J'ai 6 ans. Je ne me sens pas encore vieux. J'offre aussi mon plaisir. Mon plaisir, c'est mon cœur. Il est tout rouge et gentil. Il bat lentement. Il est tout simple. Karima, j'ai tout oublié de ma culture marocaine. Tout ce qui me reste, c'est la cuisine. Je vous offre ma recette de tagine. Je choisis du veau que je marine avec un oignon, de l'ail et de la cannelle, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Je mets toute cette préparation dans une terre cuite que j'ai achetée au Maroc. Une poterie à l'état brut, non vernie. Sans toutes ces petites fleurs pour les touristes. J'aimerais pouvoir la faire cuire sur du charbon de bois et la faire mijoter doucement. je suis souvent en colère. Car pour faire la cuisine marocaine, il faut du temps. Je n'ai plus de temps. Parfois le week-end, j'en fais avec des topinambours. Les topinambours ne sont pas des légumes marocains. C'est donc peut-être une berbérisation franco-marocaine. J'ai beaucoup de retenue, madame, de gêne et la peur d'être jugée, que l'on se trompe sur moi. Alors je vous ai parlé de cuisine. J'offre ce conseil, Jean-Claude. J'offre ce conseil que mon père m'a donné. Tu dois être à l'aise dans tous les cercles de la société. Tu dois parler à tout le monde, aux communistes comme aux curés, aux notables comme aux bohémiens. Ces mots n'ont plus de sens. Alors j'ai actualisé son conseil. Tu dois être à l'aise dans tous les milieux de la société, entrer en communication avec tout le monde, du militant du Front National à l'altermondialiste, de la femme voilée à l'habitant d'un lotissement en accession à la propriété, du jet set VIP au rhum de la rue. Je n'ai que ce cadeau, cette attitude à vous offrir pour ne pas aller dans le mur. Le mur, c'est la haine, c'est l'étanchéité entre les groupes sociaux. Il y a aussi cette guerre entre ceux qui viennent au centre d'art et ceux qui ont décidé qu'ils n'y mettraient jamais les pieds. Mon idée, c'est qu'on s'y mette tous. Ma grande colère, c'est le mépris social que je constate envers les populations modestes. Un jour, nous serons si usés que peut-être enfin, il sera temps de nous parler. Muriel. Mon cadeau, c'est de penser qu'un centre d'art est un lieu possible pour habiter le manque. Je viens de Perpignan. C'était loin pour venir vous voir, 2h30 de trajet. Ma sœur est venue de Nîmes. Ma sœur et moi sommes jumelles. Nos rencontres sont rares et toujours difficiles à cause de son emploi du temps. J'ai donc décidé d'utiliser votre dispositif et le centre d'art comme la possibilité d'inventer une rencontre entre elle et moi. Elle me manque. Nous sommes venus de directions opposées. Je sais que je vais passer 3 heures avec elle à s'écouter le cœur. Nadine, ma sœur jumelle me manque souvent. C'est elle qui m'a amenée ici dans votre dispositif au centre d'art. J'étais d'accord. J'ai depuis quelque temps ce sentiment d'urgence de devoir profiter des gens que j'aime, de partager des choses simples en pleine conscience. C'est un espace lumineux dans lequel on peut se perdre. Sète est une ville lumineuse. Ici, je suis dans une ville totalement différente de la ville où j'habite. J'ai envie de laisser une trace qui montre que je suis vivante. Même si elle est effacée à la fin de votre exposition, il restera quelque chose pour témoigner de ce qui s'est passé ici, de cette rencontre. C'est simple et grand, rester un individu avec des gens autour de vous, de nous, des traces sur les murs. Une dernière avant de faire ce break. Brigitte. Mon cadeau, c'est un appel au secours. Je suis venue car en ce moment, je n'ai plus les mots. Je suis venue à cause de ce qui se passe dans mon quartier, occupé par un réseau de drogue. La situation s'aggrave. Tout le monde sait et personne ne parle. Sauf les personnes qui ont été agressées, mais elles ne sont pas entendues par les institutions. Elles ne nous écoutent pas. Elles ne font rien. Ceux qui ne font rien sont les députés, le maire, la police nationale, et la police municipale. Quand nous faisons le 17, on nous répond « On ne peut rien faire, vous occupez la ligne. » Je suis en souffrance. 3 fois on a forcé mes serrures, que faire ? J'ai imaginé que vous écririez cela dans le centre d'art. Est-ce une solution de l'écrire? Je ne sais pas. Je pense que la liberté peut être très vite écrasée, qu'elle peut être très vite empêchée. Dites que j'habite le quartier haut. Y a-t-il quelqu'un qui veuille écrire, dire une histoire, un récit? Il faudrait beaucoup de courage pour la dire ici devant tout le monde. Mais c'est assez beau, je dois dire, ce silence. Oui.
Je viens de lire une histoire. Je ne sais pas s'il faut que je me mette quelque part. J'ai un peu la voix cassée, donc ça.
Ça serait bien
Je
que vous
saisis un
deviez
peu.
venir là. Et ça serait bien que vous la concentriez déjà au maximum.
Je pense à quelque chose de très simple. J'aimerais raconter des mots d'amour qu'on m'a dit, mais qui ne sont pas des mots d'amour qu'on pourrait. Ce ne sont pas des mots d'amour comme on l'entend d'habitude, qui sont dits entre personnes qui se séduisent, qui se cherchent. Ils étaient des mots d'amour surprenants au coin d'un verre dans un bar avec des personnes que je venais de rencontrer. C'est un bar de quartier à 7, un bar d'alcooliques avec principalement des marins et des vieux croutons, comme ils appellent, des soixantenaires alcooliques et plutôt macho. Et dans ce tas-là, il y a trois jeunes marins, ou vieux, je ne sais pas, entre deux, que j'ai rencontrés. Ça a été une rencontre assez étrange parce que je sens bien qu'ils ont vécu leur vie. C'est des gens qui sont brisés déjà un peu, qui sont atterris là par hasard et que je ne connais pas bien. Et moi, je suis arrivé à 7 en me disant que j'avais déjà fait assez de concessions, que je ne voulais plus m'adapter. Et j'arrive dans une ville qui est un peu dure dans sa franchise, qui est méditerranéenne. Et je me dis, j'essaye quand même. Je me laisse aller ma propre personnalité. Je me laisse être en friction avec les gens autour. Et en rencontrant ces marins, ce qui était beau, c'est que cette franchise que je pouvais avoir avec eux, cette espèce d'absence de retenue et l'absence de peur que je pouvais avoir de les bousculer, a provoqué quelque chose d'assez fort. C'est des bonhommes qui sont plutôt cyniques, plutôt durs et plutôt désabusés sur les choses. Et au bout de quelques rencontres, l'un d'eux est venu me voir et m'a dit « Tu es quelqu'un de beau, je t'admire. » Et ces mots-là, ils étaient très sincères, ils étaient très justes. Et ils étaient très étonnants parce que ce n'était pas quelque chose de l'ordre de la séduction, mais c'était simplement que j'avais provoqué chez eux quelque chose qui les bousculait, qui les faisait bouger, qui les sortait un peu de cette de ce cynisme. Et voilà, je voulais partager ce petit moment qui était peut-être quelque chose de très simple, mais moi qui m'a beaucoup touché, et qui en même temps était inondé au milieu de fumer de cigarettes dans un bar de quartier qui n'était pas forcément incroyable et qui était très juste. Et je trouve que c'est quelque chose à...
Merci. Béatrice, je vous offre de la douleur à partager. Je n'arrête pas de penser à mes parents qui ont été exécutés par les nazis. Ils ont été arrêtés à Bucarest. J'ai 74 ans. Pourquoi est-ce seulement maintenant que cela m'obsède tout le temps? Peut-être parce que j'ai eu un cancer. Quand je me suis arrêtée de travailler, j'ai commencé à avoir le temps de penser. Beaucoup autour de moi ne supportent plus que je parle de ce manque. Si tout à coup on trouvait les bourreaux de mes parents, je pourrais aller témoigner. J'ai une immense envie de vengeance. Mais c'est trop tard. Quand les nazis nous ont arrêtés, mon frère avait 3 ans et moi 21 mois. Ma grand-mère a réussi à nous racheter, mon frère, moi et ma mère, à un des gardes. Mais mon père n'a pas voulu que ma mère le laisse seule. Alors elle est restée avec lui. Ils ont été emmenés en Ukraine, puis déshabillés et mis dans des camions. Ils en ont exécuté 1000 le 23 septembre 1942, une balle dans la nuque. Aujourd'hui, c'est le 23 septembre, alors je suis venue vous voir. Ma grand-mère a fui en France, elle devait travailler pour survivre, alors elle nous a mis dans des camions d'orphelins, des maisons d'orphelins de guerre. Moi, j'étais à Ruelle Malmaison. Beaucoup d'enfants n'avaient plus personne, tout le monde était mort autour d'eux. Ma grand-mère est morte quand j'avais 15 ans. Quand elle est morte, j'étais en colonie de vacances à l'école. Je me suis sentie coupable. Elle n'a jamais voulu parler de mes parents. J'ai une photo de ma mère avant son mariage, mais je n'ai pas de photo de mon père. Un jour, dans cette maison de l'enfance de Ruelle Malmaison, une fille m'a traitée de sale juive. Alors nous lui avons tapé dessus avec d'autres filles. Les racistes sont des gens qui ne sont pas humains. Je les vois comme des humains prêts à faire la même chose que les nazis. J'ai peur qu'ils gagnent les élections en France. S'ils gagnent aux élections, je serai obligée de rentrer dans la résistance. Claudie, j'offre ce souvenir. Je suis dans un 4x4 en Afrique. Au bord d'une route, il y a une femme Imba qui marche avec son bébé. Nous la prenons en stop. Elle est assise à l'arrière de la voiture, à côté de moi. Je ne comprends pas sa langue. Son corps est enduit d'un onguent fait de graisse et d'hématite rouge qui la protège du soleil, de la sécheresse et des insectes. Elle est immensément belle. Elle allaitait tranquillement son nouveau-né. Et comme si elle avait ressenti tout à coup mon désir, elle a posé très simplement son enfant sur mes genoux. J'ai toujours cette tache rouge d'hématite sur mon bermuda. Cette trace est indélébile. Je ne m'en suis jamais séparée. Je vous offre sa grâce, la beauté de son regard, sa lumière, l'ocre de la terre, l'abondance de sa générosité. Je n'avais jamais vu une personne aussi belle de toute ma vie. La couleur rouge sur sa peau brune était comme un tableau. J'étais tout à coup entrée dans un tableau, dans une autre dimension. Sa beauté était imprévue. Je me suis sentie minuscule. Je n'étais plus rien. Peut-être est-ce pour cela que certains détruisent la beauté. La beauté fait peur. Mais l'enfant est devenu le lien. Il a humanisé notre rencontre. Il m'a donné une place inoubliable. Je pense très souvent à eux. Alice, je viens vous offrir mon temps. J'ai rêvé de ce rendez-vous cette nuit. Offrir son temps est une chose difficile car il faut être concentré et en pleine conscience du moment présent. Le temps, la fuite du temps est constante. Je suis toujours en quête du moment présent. Mais je suis toujours en avance. Je n'arrive pas à vivre le moment présent. Je suis venue ici vivre pleinement 15 minutes avec vous. J'ai 28 ans. Ce qui me fait pleurer, c'est le fait d'être tout à coup en face de quelqu'un qui veuille bien m'écouter. En fait, c'est vous qui me faites un cadeau. Je suis très émue. J'aimerais de la douceur. Je crois que c'est dans l'art que l'on peut faire ça. Dans l'enfance, il y a des cris qui restent à l'intérieur. Mais ils sont toujours là. Il faudrait savoir entendre ces cris, ces angoisses. Quand on est enfant, on est comme des handicapés. On demande de l'aide, mais il n'y en a pas. Être dans le temps présent, ce serait une considération totale de la personne, ce serait lui laisser de la place. Quand je vous regarde, je vous sens totalement. C'est un désir, une envie de vous. Dédé. J'offre l'histoire la plus importante de ma vie, l'histoire de ma mère. Ma mère, je ne l'ai vue que sur une photographie. Je suis sur ses genoux, elle est brune aux yeux bleus, elle s'appelle Rosie, elle est très belle, elle est décédée le 17 mars 1946. Moi, j'ai 73 ans. Quand je descends de chez moi au port pour rejoindre mon bateau et que je passe devant le cimetière, je lui lance toujours 3 baisers dans l'air. Quand il y a de la place pour ma voiture, je vais vers le caveau dans le cimetière marin. Je ne lui ai parlé qu'une seule fois sur la tombe. Je lui ai dit, je vais les repeindre. J'ai acheté de la peinture dorée et j'ai repeint doucement toutes les lettres. Marine aura 20 ans le 10 février 2016. J'étais tellement amoureux de sa mère. Marine, elle ne viendra jamais me voir au cimetière, puisqu'elle ne vient déjà pas me voir alors que je suis en vie. Nathan, je vous offre le rapport que j'ai avec mes parents et leur maladie. Ma mère a eu un cancer et je n'ai pas été préparée à cela. J'étais partagée entre la peur de la perdre et le besoin de me battre contre elle, d'être en conflit avec elle pour la rendre combattante. Mon père a la maladie de Parkinson, je n'arrive pas à en faire un combattant. Je perds pied, j'angoisse énormément. Est-ce que c'est cela, prendre de l'âge? Je ne leur autorise aucune faute, aucun écart. Je suis très intransigeant avec eux. Je ne leur donne pas le droit de dériver. Tant que je me bagarre avec eux, cela me permet de les sentir, présents. Le conflit est ma seule façon de leur parler d'amour, de me rassurer, de savoir qu'ils sont toujours là. C'est palpable comme les battements d'un cœur. Je ne pourrai jamais leur dire « je vous aime, j'ai tellement peur de votre mort ». À 6 ans, je me souviens avoir demandé au médecin qu'il me donne des médicaments pour ne pas mourir. Josette, j'offre ce souvenir. C'était dans les années 50. J'ai 8 ans. Nous vivons à 7. Et chaque année, nous allions en Espagne chez ma grand-mère, dans un hameau perdu des Pyrénées espagnoles. Il y avait quelques petites maisons où vivaient principalement des assignés à résidence, placés là par le général Franco. C'étaient des Castillans, des Républicains, qui avaient été torturés. Nous nous amusions avec leurs enfants. Pour nous, c'était la belle vie. Dans la ferme du coin, il y avait une chienne noire qui s'appelait Muria. Nous aimions vraiment beaucoup cette chienne. On l'emmenait partout avec nous, elle nous suivait partout. Mais un jour, Muria est morte. Nous allions souvent dans la décharge chercher des morceaux de vaisselle cassés pour jouer à la dinette. Et nous avons trouvé Muria jetée là au milieu des ordures. On s'est mis à aller la voir souvent. Sous le soleil, son corps se transformait. Un jour, l'un de nous a pris un bâton et l'a enfoncé dans le ventre de Muria. Nous avons tous voulu faire pareil. La chienne s'est transformée en un ventre, transpercée de plein de bâtons, comme une sculpture. C'était la guerre civile. Puis nous n'avons plus été voir Muria. J'ai 74 ans et j'ai toujours cette image-là dans ma tête. Pourtant, on n'était pas violents entre nous. Yasmina, j'ai toujours voulu créer quelque chose de nouveau. J'ai 18 ans, mais je n'y arrive pas. Nouveau veut dire quelque chose qui vient du néant, quelque chose que personne n'a jamais inventé. J'aime les choses parfaites, qui n'ont aucun défaut. J'aimerais offrir une machine qui empêche de se contenter de ce que l'on a. Puis j'offrirai une machine pour prendre sa place. Puis j'offrirai une machine pour obtenir ce que l'on veut. Mais ce que je veux, c'est rien. Parce que je suis une personne qui se contente de ce qu'elle a. Colette, je vous offre Dédale, le père d'Icare. Minos demande à Dédale de construire un labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Mais Minos se fâche avec Dédale et l'enferme avec son fils Icare dans le labyrinthe. Dédale construit alors de grandes ailes avec de la cire et lui et son fils s'envolent. Dédale dit à son fils, ne vole pas trop bas à cause de la mer, ni trop haut, sinon le soleil fera fondre tes ailes. Mais Icare ne l'écoute pas. Tout à coup, Dédale voit les deux ailes de son fils flotter sur l'eau. Icare s'est noyé. Je suis Dédale. Ça va? Je vous offre une histoire de mer car je suis marin. J'habite sur un chalutier qui fait 25 mètres de long. Mon métier, c'est une passion. On pêche des merlans, des caplans, des rougets, des saules, des poulpes, des baudrois et tous les poissons de roche qui servent à faire la bouillabaisse. J'aimerais vous offrir ce souvenir. Je suis en plongée et j'ai vu un cheval de mer, un hippocampe. Ils sont très rares. Quand ils sont dans l'eau, ils se déplacent avec des ailes, comme s'ils volaient. Quand ils meurent, ils perdent leurs ailes. J'ai alors tendu mon petit doigt et l'hippocampe s'est enroulé autour de lui. Nous sommes restés ainsi face à face au moins 10 longues minutes. J'étais émerveillée, je ne bougeais plus. J'aurais pu le sortir de l'eau, mais j'avais peur qu'il perde ses ailes et meure. J'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 38. Je n'en ai plus jamais rencontré depuis. Jade, je voudrais offrir ma chance. J'ai été tout en bas et j'ai réussi à guérir de moi-même. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'était moi. J'ai enfin pu devenir une passante. J'ai 40 ans et je ne suis plus dans l'attente du regard des autres, dans une séduction constante. J'attendais toujours d'être aimée. Je n'avais pas compris qu'il fallait d'abord que je m'aime. Comme tout cela est doux maintenant. Petite, je regardais mes parents. Ils étaient absolument parfaits. Louis et Violette. Je ne suis plus Violette, ni Louis. Je suis Jade, et je peux enfin vous le dire à voix haute. Catherine. J'offre mon immense plaisir de la cigarette. La cigarette me relie au réel et quand je ne fume pas, je ne me sens plus connectée au monde. La première cigarette du matin m'emplit tout le corps. La fumée semble circuler à la place de mon sang. C'est puissant. Cette circulation me donne une impression de vie. Je la ressens comme érotique car elle me pénètre. J'inhale encore et encore, ça me pénètre encore et encore. Elle passe par tous mes pores et c'est à nouveau une pénétration. Je veux m'arrêter de fumer car cela m'est néfaste. Mais comment ces pénétrations peuvent-elles être néfastes? J'offre l'instant présent, Valérie. Valérie. J'offre l'instant présent. Je n'y arrive que depuis très peu de temps. J'appelle cela le temps d'aimer et il permet la rencontre. J'étais toujours dans le passé ou dans le futur et je ratais tout ce qui se passait autour de moi. Il y a peu de temps, j'ai rencontré une personne qui ne me correspond en rien. Cette personne m'a emmené pour la première fois de ma vie dans ce centre d'art, j'ai vu de l'art et j'ai vu votre annonce. Regarder des œuvres me parle du temps réel et me donne une conscience. Cela me permet d'aller voir la profondeur, de m'aimer moi-même. L'art, c'est un outil pour la rencontre. J'aurais aimé comprendre cela quand j'étais jeune. J'ai 49 ans et cela me donne une sensation de paix intérieure. Est-ce cela l'amour? Elisa, j'offre des odeurs. J'aime l'odeur des poils sous les bras. J'aime les odeurs des endroits repliés. Les poils du sexe ne transpirent pas comme les poils des aisselles. Ce sont des parties sensibles. Ce sont des lieux dont j'aime les odeurs. J'aime les bonnes odeurs. Pour avoir une bonne odeur, il faut que les personnes en prennent soin. Quand elles ont une bonne odeur, j'ai envie de m'y réfugier ou de les croquer. J'aime les parties intimes. Elles sont sensuelles. Elles sont comme des maisons. Nitin. Je vous offre cette bouteille bleue. Dedans, il y a de l'eau de mer de l'océan Indien, mélangée avec de l'eau de mer prise aux Seychelles, mélangée à de l'eau de mer prélevée à Kochi, dans le sud de l'Inde, mélangée avec de l'eau de mer prise aujourd'hui à Sète. Je suis l'homme qui transvase les océans. Clarisse, je veux vous offrir notre histoire d'amour. Nous sommes là depuis un mois, rue Paul-Valéry. Nous avons choisi votre invitation comme notre premier souvenir commun avec la ville de Sète. Nous sommes lesbiennes, et même si la ville est un peu moins ouverte que d'autres villes plus importantes, nous avons décidé de commencer à vivre notre histoire d'amour ici, dans cette ville que nous ne connaissions pas du tout. Nous avons cherché une ville inconnue de nous deux, où il y a la mer, et où nous n'avons chacune aucun souvenir d'une autre vie, aucune empreinte d'un événement ou d'une personne que nous aurions pu y connaître. Une ville vierge. Je vous offre mon bonheur d'avoir rencontré Clarisse, de notre amour qui s'est posé là à Sète. Clarisse est lumineuse, sa lumière se révèle dans cette ville où la lumière est magnifique et où il y a cette promesse d'horizon. Il y a aussi le phare, cette lumière à laquelle on peut toujours s'accrocher. Et il y a la profondeur, de la profondeur, des gens en difficulté, des gens aisés, des gens riches. C'est encore un monde des possibles. Par rapport à notre amour, cela résonne entre difficulté et bonheur, entre mer et montagne. Ici, soit on surplombe les collines, soit on reste collé à la mer, à même la mer. Je termine. Fabienne. Je veux offrir le revenu minimum de vie. C'est une idée soutenue par de nombreux économistes de par le monde. Donner à chaque individu un revenu universel et inconditionnel, aux pauvres comme aux riches. Cela permettrait de changer complètement la configuration économique du monde. Personne ne ferait plus sa carrière dans les poubelles. Je demande à l'État français d'assumer son rôle dans la répartition des richesses, pas juste de faire du marketing social et politique, mais de passer à l'acte courageusement, de façon inventive et adaptée au XXIe siècle. Le plus grand défi actuel, ce serait de sortir de la charité pour entrer dans un refuge de dignité. Je ne les ai pas classés, je vous les ai lus dans l'ordre du passage des personnes. Ce qui est parfois étonnant parce que parfois il y a des choses qui se répercutent. Je vous donne ça. Est-ce que quelqu'un a envie de raconter une histoire? Un récit, trois mots, quelque chose à échanger. On arrêtera là et je vous remercie d'être venu. Je sais pas, pour vous c'est peut-être moins bien, pour moi c'est très beau de vous voir comme ça devant. Très... Merci. Des gens qui viennent comme ça 10 minutes, 15 minutes. Il y en a qui n'arrêtaient pas de parler. C'était vraiment très très impressionnant. Et d'autres qui disaient un mot après l'autre. Ce qui est intéressant quand je vais juste dire ça, parce que je crois que c'est il y a peu d'endroits pour moi qui sont encore possibles comme ça, qui est en tout cas pour moi dans l'art depuis 1991, c'est qu'à chaque fois que je fais une annonce pour que des gens viennent filmer avec moi, tourner avec moi, à chaque fois, ça n'a jamais été différent, à part le jour où j'ai choisi très précisément de travailler avec des chauffeurs de taxi légaux, ou le jour où j'ai décidé de travailler avec des milliardaires de la Silicon Valley, ou des physiciens du CERN. Sinon, quand je fais des annonces... large, il y a toujours des gens très riches qui viennent et des gens très très pauvres. Il y a absolument des écarts incroyables. Et tout à coup, ils se retrouvent là à travailler avec moi et après, je les installe dans le même film. Et c'est toujours assez perturbant. La façon aussi dont j'écris les annonces est très très importante, c'est-à-dire ça entraîne le protocole. Peut-être par exemple pour vous expliquer, quand j'ai fait Forever pour Voici 100 ans d'art contemporain à Bruxelles, d'ailleurs on m'a donné 2 minutes pour passer à la télévision belge pendant le journal télévisé et j'ai demandé. J'ai dit que je cherchais des enfants de 40 ans qui acceptent de venir avec leurs parents. J'ai fait un travail sur l'apprentissage de la guerre dans mes familles. La façon dont je m'adresse à l'autre est extrêmement importante. La façon dont les mots que j'emploie. Ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi viennent-ils ? Je n'ai jamais eu aucun problème pour que des gens s'inscrivent. Et même dans une de mes dernières œuvres au Luxembourg, qu'on me disait, les Luxembourgeois ne se déplacent pas, ne participent à rien, ils ne viennent pas. Et j'ai tourné en direct, cette fois-ci à l'inverse de ce que je fais d'habitude, j'ai tourné pendant un mois avec 100 personnes. Donc, pourquoi un milliardaire viendrait-il ou un homme très pauvre? En plus, je tourne toujours en studio, donc je ne tourne jamais dans... Je ne fais pas du documentaire. Et en fait, ils viennent parce que, quand je leur demande, ils viennent soit pour réparer, soit pour... ils viennent bizarrement souvent pour se réparer. Habituellement, quand je ne travaille pas comme ça, je travaille à partir de questions. J'écris des centaines de questions. J'ai écrit, je crois, des milliers de questions dans ma vie. Et la personne est en face de ma caméra. Et moi, je ne suis jamais de l'autre côté de la caméra. J'utilise beaucoup le vide. Et les gens répondent et ils sont tous ennuyeux. Je suis moi-même ennuyeuse. Tout le monde raconte ce que tout le monde dit. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, une question, et je ne sais pas pourquoi, crée un trou. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, parce que la psychanalyse, ça manque des années. Là, c'est une espèce de chose qui sort et qui fait que quand je leur montre, ils me disent « c'est pas moi ». C'est absolument pas moi. Et d'ailleurs, il se transforme physiquement. Et ce qui m'intéresse, c'était cette espèce de matière totalement... qui n'est jamais à vue, totalement prescrite, occultée, réfrénée, rééduquée. Quelque chose qui serait comme un peu... j'aime beaucoup le contreplaqué avant qu'on le peigne. C'est-à-dire comme s'il était en état d'être construit. Vous voulez pas partir? Je vais juste remercier Julien. Je suis ici parce que c'est ma ville. Même si en ce moment, je suis très en colère contre ma ville. De Saint-Denis, puisque depuis le mois de mai dernier, mon atelier est régulièrement envahi par l'eau. Dès qu'il pleut beaucoup, il y a 3500 litres d'eau qui se versent dans mon atelier. Et à cause d'un marchand de sommeil qui ne veut rien faire, personne ne veut rien faire. Donc je me sens très fragile en ce moment. Mais je suis très supportrice de l'art et de toutes les aventures qui peuvent y avoir pour que l'art puisse toucher des gens dans des quartiers ou des zones où je viens d'un milieu où on n'allait pas au musée parce qu'on aurait eu honte d'aller au musée. Donc ça m'importe, ces quartiers-là. J'ai toujours les nouvelles urbanités, je dis nouvelles urbanités, je refuse de dire le mot banlieue. Les nouvelles urbanités, parce que je pense que c'est, en fait, c'est elle l'avenir. Et je trouve que, voilà, il y a des lieux qui sont pour moi des lieux qui se battent, qui sont vraiment des lieux de très grande importance pour moi. Et sans rien ici. Il y en a plein d'autres ailleurs. J'y fais très attention. J'y fais vraiment très attention. Et je crois que... Je vais vous dire une chose peut-être bizarre. On est dans un moment extrêmement déprimant, dépressif, tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que l'art a une importance énorme, que les artistes ont des choses à dire. Tout simplement parce que je suis une personne qui aime l'art et que je ne fais pas de l'art pour l'art. 6 et tout.